Nous nous réjouissons de ce que notre avenir sera garanti, quelles que soient les turbulences qui agitent le monde et votre famille même. Notre avenir, c'est Jésus-Christ. Nous allons remettre de la lumière là où elle doit être. Merci. Et nous allons ensemble faire une lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Peut-être que la deuxième venue de Jésus était plus annoncée que la première. Car les prophètes, Jésus lui-même, tous les apôtres, l'Apocalypse, les psaumes, tout en parle. Prêtons l'oreille. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Bénis cette parole, Seigneur, et fais-nous entendre ta voix et ton avertissement, tes promesses, par le Saint-Esprit, tout au fond de nos cœurs, où tu habites en nous. Amen. Il faut en reparler, frères et sœurs. Il faut vraiment garder les mots que Jésus nous a choisis pour parler de sa venue, son avènement. Le mot « venir ». Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Il y a un retour physique, pas seulement spirituel, physique, de Jésus en chair et en os. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Des chrétiens ont pensé pendant des siècles même qu'il ne viendrait qu'une seule fois. Sa première venue et ça va. Des chrétiens plus proches de nous nous ont dit « Oh, il va revenir dans 1 milliard d'années ». Il pourrait le faire. Mais ce 1 milliard d'années ferait que sa venue ne me concerne pas tellement. Or, notre salut dépend de la venue de Jésus-Christ. Il y a aussi un verbe que Jésus et les apôtres en prennent souvent, c'est le verbe « descendre ». Le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendre. Ça veut dire qu'il ne va pas naître quelque part, il ne va pas sortir de quelque forêt ou grotte ou désert. Il va descendre. À l'ascension, les anges ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Le monde verra en un instant ce que les disciples, très peu de monde, quelques dizaines, ont vu, la splendeur de Dieu, Fils de Dieu, ressuscité. Le monde verra les tribus de la terre, les îles lointaines, les habitants du désert, des villes, des ghettos, tous le verront. Il ne faudra donc pas courir après les apparitions de Jésus. Si l'on vous dit « il est là », n'y allez pas. Il descendra. Si l'on vous dit « il est dans le désert », c'est ce que j'attends un peu, remarquez. Que l'on nous dise « le Seigneur est là-bas, le Seigneur est apparu ici », Jésus dit « n'y allez pas ». Il descendra du ciel. Amen. Il y a aussi le mot « apparition », « épiphanie ». Qui est une manifestation, une apparition. Ça montre l'éclat, la splendeur, éblouissant. Et puis le mot « jour du Seigneur », ça revient souvent dans les évangiles. « Jour du Seigneur », cela veut dire, pour ceux qui sont habitués à la Bible, qu'il viendra rendre ses comptes. Il viendra donner le salut à ceux qui l'attendent. Il viendra donner un jugement aussi dans le monde. Vous le savez, frères et sœurs, que nous ne soyons pas surpris, le Seigneur viendra en deux temps. Premier temps, il viendra pour chercher les élus, les saints que nous sommes, et ceux qui sont décédés depuis des milliers d'années. Et le deuxième temps, il reviendra avec les élus. Il vient d'abord pour les chrétiens et il reviendra avec les chrétiens qui l'escorteront. Tous ces mots que je vous ai dit s'appliquent dans les deux venues qui seront très proches l'une de l'autre. Et quand j'observais encore cette semaine les discours de Jésus sur son retour, il mélange un peu tout, il brouille un peu les pistes. Première venue, deuxième venue, résurrection. Alors je crois qu'il ne faut pas trop décortiquer au millimètre près. Il dit bien pour nous, je vous ressusciterai au dernier jour. Mais non, Seigneur, ce n'est pas le dernier jour, puisqu'il y aura encore du temps après. Le Seigneur nous dit, soyez prêts. Ne vous occupez pas de tout, soyez prêts. Nous ne savons pas, frères et sœurs, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, se fera avant la tribulation, ou pendant la tribulation, ou après la tribulation. C'est difficile, hein. Les spécialistes de la Bible disent qu'on a du mal à savoir si nous, chrétiens français, bretons, on ne vivra pas aucun problème, aucune tribulation, aucun trouble, parce qu'il y aura des temps troubles. Jésus nous a simplement dit, veillez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper aux choses qui surviendront sur la terre. Ça veut dire que ce sera difficile. Il y aura donc des temps difficiles qui sont commencés depuis la venue de Jésus, depuis 2000 ans. Parce que ne regardons pas seulement notre petite France. La Chine a connu des tribulations dans l'Église en Chine dans les années 50, 60, 70. Ne parlons pas des pays de l'Est, ne parlons pas même de la France dans certaines époques. Il y a toujours eu des tribulations. Soyez prêts, dit le Seigneur. Comment sera l'avènement de Jésus? Ce sera une présence. Il viendra après cette absence de Jésus d'aujourd'hui. Physiquement, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le saisir dans son vêtement. Il viendra visible, il viendra présent. Il va se dévoiler. Apocalypse, ça veut dire dévoiler. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire à la vitesse de l'éclair. Toutes les parties de la terre le verront à la vitesse de l'éclair. Parce que bien sûr, quand on est tout jeune dans la foi, on se dit, mais enfin, quand il va apparaître à la France, je ne pense pas que le Japon pourra le voir. Tchou ! À la vitesse de l'éclair, tout le monde le verra. Mais ne cherchez pas à comprendre, ne me demandez pas d'expliquer. Je ne suis pas très fort dans la lumière. Il viendra à la trompette de Dieu avec tous ses anges. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu avec tous ses anges. Je pense qu'il y en a 100 milliards ou 100 000, 100, je ne sais pas, après le livre de Daniel. Jésus nous avait dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça va vraiment arriver, visiblement, physiquement. Mais surtout, comment viendra-t-il? Écoutez bien, surtout, il viendra très vite, ce sera soudain. Ruine soudaine, arrivée soudaine, parole de Jésus. Enlevé en un clin d'œil. Bientôt, ce qui revient souvent, ça veut dire rapidement. Et Jésus n'arrête pas de nous donner des paraboles sur le voleur qui vient la nuit pour percer votre maison, sur les vierges sages ou folles qui s'endorment et l'époux arrive, etc. Il y a une surprise à chaque fois dans les paraboles de Jésus pour nous dire, vous ne soyez pas surpris, je vous en prie. Donc la leçon que nous en tirons, vigilance constante, veillez. Surveillez-vous, veillez sur votre vie spirituelle, veillez sur votre vie de prière, veillez sur votre sainteté. Quand on veille, c'est un signe qu'on a confiance en lui, signe de foi, signe d'amour, signe d'espérance parce qu'on l'attend un peu chaque jour. Soudain, les épîtres disent « La fin de toute chose est proche, soyez sages, sobres, ne vous encombrez pas la tête, l'esprit, les poches pour prier. Soyez patients, l'avènement du Seigneur est proche. » Ça veut dire imminent, départ imminent, quand on prend l'avion parfois, ou départ imminent. Imminent, ça veut dire qu'il menace, comme un orage qui menace. On dit parfois, ça menace. J'espère pas aujourd'hui. Hein. Jésus, là, il nous donne un casse-tête quand même, il ne donne pas de date. Il ne nous donne pas de date et il dit simplement que les signes vont se produire très très vite. On est tous perdus là, en mathématiques. Donc ce ne sera pas au rythme de l'histoire. Avec des montées, des descentes, des hauts et des bas, des crises, des calmes. Dieu même, dit la Bible dans Ésaïe 60, va hâter ces choses. Il va accélérer le temps. Ce sera incontrôlable. Donc, un retour imminent. Mais, il y a un délai quand même. Je vous le dis parce que la Bible le dit. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges, l'époux tardait. Tout le monde s'est endormi, pouf. Mais c'est surtout pour nous dire, l'époux tardait. Il tardait tellement que tout le monde s'est endormi. J'espère que vous ne dormez pas, ça va ? Ce serait terrible, hein, s'il nous trouvait endormis à son arrivée soudaine. Une autre parabole, les serviteurs qui disent, mon maître tarde à venir. C'est Jésus qui dit cela. Pour nous dire, oui, le maître va tarder un peu. La parabole des talents, quand le propriétaire s'en va, il remet des talents à ses serviteurs et longtemps après, il revint. Longtemps après, il revint. Donc, il y aura du temps. Et Paul dit aux Thessaloniciens qui sont un peu paniqués devant la mort de certains chrétiens dans l'Église, il dit aux Thessaloniciens, ne soyez pas troublés. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne soyez pas troublés par ce qu'on dit là-dessus. Il y a un délai. Et puis, un délai jusqu'au premier signe. Attention, ne dormez pas. Il y a un délai jusqu'au premier signe, jusqu'à un temps, le temps de la fin. Pas n'importe quel signe, des signes de la parole de Dieu. Si vous avez une fuite dans votre salle de bain, ne dites pas que c'est le déluge. Si vous avez une crevaison, ne dites pas que c'est la fin du monde. Les signes annoncés par la parole de Dieu. Parce que des douleurs, il y en a eu. Jésus dit, ce sera le commencement des douleurs, des famines, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Il y en a toujours eu, c'est le commencement des douleurs. Mais il y aura un temps surtout. Où des signes vont se produire très, très, très vite. J'ai réfléchi avant de vous dire cela, mais quelques mois. Les douleurs de la femme qui enfante. Elle n'enfante pas pendant 6 mois. Mais c'est quand même pas très long. Et ces signes, je me suis demandé si nous les verrons. Nous ne sommes pas tous en train de dormir. Jésus disait, vous ne savez pas discerner les signes du ciel. Vous ne savez pas discerner. Vous observez bien le ciel, il fera beau, c'est ça qui vous intéresse. Mais vous ne savez pas discerner les signes du ciel, les signes des temps. Et ces signes qui vont s'accélérer peuvent tout à coup nous surprendre comme un voleur. Tout à coup, ils nous trouvent dépourvus. Oh, on ne sait plus prier, on est nonchalant. Un peu comme la génération de Noé, il y avait à cette époque-là des gens endormis, des gens négligents, des gens nonchalants qui nageaient dans le bonheur. Et quand le déluge est arrivé, ils n'ont pu rien faire. Ils ont été pris de court. Parabole des 10 vierges aussi, hein. Les jeunes filles qui avaient plus d'huile, là. Oh, donnez-nous de votre huile. J'ai toujours été surpris par les autres qui disaient « Non, on ne partage pas. » C'est bien notre temps, ça, non ? Chacun pour soi. L'individualisme, on ne partage pas. Allez chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. C'est pour vous dire que les chrétiens de ce temps-là, qui seront au futur quand même, hein, nonchalants, ne trouveront pas le temps de se réveiller, se remettre à flot avec le Seigneur. Vous avez remarqué que parfois, quand on ne prie pas, quand on est absorbé par des difficultés familiales, de travail, combien notre prière est lourde et on ne prie plus, et on a du mal à prier, on n'a presque plus rien, le puits est tari. Et quand le Seigneur reviendra, il trouvera des chrétiens secs qui n'auront plus l'eau de la foi, de l'amour, de la prière. Alors, quels sont les signes ? Il y a la venue, la naissance de Jésus, la mort, le délai, déjà 2000 ans, et puis après les signes qui vont vite s'accélérer, très vite. Je pense qu'un des grands signes, c'est quand même le vieux monde qui va se désagréger. Quelqu'un, enfin, beaucoup d'autres aussi, ont fait un rapport avec l'Empire romain et notre temps. Parce que l'Empire romain, c'est quand même prophétique dans la Bible. C'était un empire qui a succédé à Babylone, etc. Et l'Empire romain, la fin de l'Empire romain, écoutez, lisez le West France, regardez la télévision, ça c'est la fin de l'Empire romain. Il y avait à la fin de l'Empire romain un individualisme épouvantable. Et aujourd'hui, un spécialiste disait l'autre jour à la radio, c'est un phénomène de masse, une catastrophe, l'individualisme, qui veut dire en fait perte de la charité, beaucoup de solitude. Dans l'Empire romain, on se mariait tous les ans. On divorçait pour se marier et on se mariait pour divorcer. C'est pas loin de nous quand même, non? Les gens vivaient pour les divertissements, les plaisirs, le luxe. La pauvreté était magistrale, la richesse était magistrale. Vous ne trouvez pas que on n'est pas très loin? Nous sommes dans un temps qui se désagrège. La méchanceté va grandir. L'indifférence va grandir. Le mépris des autres va grandir. On le voit, je le constate, je le ressens. C'est catastrophique. Mais enfin, un des grands signes qui doit nous alerter, c'est les promesses sur la destinée d'Israël qui vont s'accomplir. Jérusalem rendue à Israël. Point final. Ne le répétez pas, sinon je vais avoir un attentat. Conversion d'Israël au Fils de Dieu, leur Messie, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Réintégration d'Israël dans le projet de Dieu. Ils vont reprendre leur place à la tête de l'univers. Mais il faut d'abord que l'apostasie arrive. Voyez-vous, c'est Paul qui dit ça. Il faut auparavant que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est la perte de la foi, la perte des valeurs chrétiennes, la perte de la relation avec Dieu. On aura l'apparence, mais on n'aura plus le fond. On aura la forme, mais pas le fond. Et puis, un grand signe également, c'est entre parenthèses, je n'insiste pas trop sur l'apostasie parce que ce serait catastrophique pour les pasteurs, pour les chrétiens, pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent porter l'Église et évangéliser, ce sera très difficile. Bon. Et aussi, un des grands signes, ce sera l'homme du péché qui va venir. L'impie, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, contre Dieu. L'homme qui va mener le monde à la ruine. Paul dit bien, ces mystères agissent déjà. Le mystère du péché agit déjà. Le péché atteint des proportions qu'on n'a jamais connues. Le mystère d'Israël agit déjà. De mon temps, de votre temps, ils sont venus. Ils sont revenus. Je ne sais pas qui est né en 48 ici. 48 ? La nation d'Israël reconnue par le monde. 67, le mur des lamentations libéré. Et nous pensons, enfin, les spécialistes pensent que 1967 a été une date prophétique annoncée par les évangiles. Donc les mystères là, de la fin agissent déjà. Mais le Seigneur va accélérer ces choses. Le monde va s'accélérer. Donc en quelques mois, on verra la décadence, la dégradation, le monde invivable. L'eau sera même plus potable. On ne pourra plus vivre. Jésus nous met en garde sur les dates. Personne ne sait le jour. Ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, et le Père seul. Ce n'est pas à vous, dit Jésus, de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Je l'ai lu souvent, ce texte. Et des chrétiens m'ont dit, oui, mais enfin, vous savez, si on calcule bien la Révolution française avec la Révolution russe, ils sont plus forts, c'est plus fort qu'eux. Des gens essaie d'avoir des dates. Faites attention à ce qu'on dit à ce sujet. Faites attention. Votre seul repère, c'est la parole du Seigneur. Veillez et priez. Amen. Mais Paul, il dit, nous les vivants, c'était lui à l'époque, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, le Seigneur nous enlèvera dans le ciel, oui. Mais en fin de compte, l'apôtre Paul, il est mort comme tout le monde. Il n'a pas connu l'avènement du Seigneur. Lui, il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Je crois que chaque génération chrétienne doit pouvoir lire ce texte en disant, nous les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Il faut que chaque génération le dise, sans honte. On m'a dit, ouais, ça fait 30 ans que tu dis ça, et puis ça n'arrive pas. Je continue. Nous les vivants, restez pour la venue du Seigneur. Car chaque génération doit être mobilisée. Elle doit être au-dessus des calmes de l'histoire. Ça va aller vite. Au-dessus des crises de l'histoire. Ça va aller vite. Il faut qu'elle reste mobilisée dans l'espérance. Toutes les épîtres, l'Apocalypse nous enseigne la vigilance. Ce jour, dit Paul, ne doit pas vous surprendre. Il ne doit pas vous surprendre. Vous êtes avertis. Il faut que vous soyez debout et que vous ne dormiez pas. Jésus dit que le Seigneur ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. J'ai l'impression que faut pas manquer ce jour-là. J'ai l'impression que ce jour-là, comme le jour de ma mort, de votre mort, parce que c'est un peu similaire, ce jour-là, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas s'éloigner la veille de mourir. Il ne faut pas s'éloigner une semaine avant la venue de Jésus. Il faut être fidèle au rendez-vous. C'est une question de foi, une question d'amour. C'est comme si, le jour du mariage, le mari ne vient pas. C'est arrivé déjà, vous savez. Le mari ne vient pas, il est en retard. Plus que du retard, il est parti, je ne sais pas où. Ça paraîtrait impensable, un manque d'amour, un manque de tout. Soyons prêts quand le Seigneur va revenir. Amen. Faites attention quand vous lisez les évangiles, Jésus nous parle, dans tous les évangiles, il parle d'un discours sur la fin du monde. Faites attention, que celui qui lise fasse attention. Il y a dans ce texte de Jésus deux histoires qui se chevauchent. Est-ce que vous avez un billet de banque à me donner? Non, vous n'avez pas? Chacun un billet de banque à me donner? Vous n'êtes pas généreux. On pourrait le regarder à la lumière et on verrait que dans l'image du billet de banque, il y a une deuxième image, n'est-ce pas? En filigrane. Et quand on lit les Matthieu 24, Marc 13, etc., on voit qu'il y a deux histoires. Pour ça, il ne faut pas se tromper parce qu'il est dit « malheur aux femmes enceintes ». Ça ne veut pas dire qu'il y a un malheur pour les femmes enceintes de l'Église. Malheur aux femmes enceintes quand Jérusalem va être rasée, brûlée, détruite, avec 1 million de croix pour les hommes. Malheur aux femmes enceintes, là. Parce que là, ce sera difficile, étant enceinte, de fuir. C'est la destruction de Jérusalem. Dans cette histoire de Jésus, il y a deux fins du monde. Il y a la destruction de Jérusalem. Et puis en même temps, il parle de la fin du monde. Malheur aux femmes qui allaitent. Oui, parce que ce sera compliqué de fuir devant les Romains. Le livre de Daniel dit que le peuple d'un chef, un grand chef, va venir comme une inondation et va détruire Jérusalem. C'est fait. En l'an 70, les Romains ont crucifié tous les habitants. Ils ont détruit la ville, détruit le temple, toutes les maisons, tout. C'est fait. L'inondation a touché. Et cette histoire, c'est une histoire entre Dieu et Jérusalem. Mais dans cette histoire, nous voyons aussi comme un signe avant-coureur de la destruction et de la venue de Jésus, la destruction du monde. Jésus annonce dans cette histoire la fin de Jérusalem et la fin du monde. Mais quand il dit « il paraîtra sur les nuées du ciel et tout œil le verra », là, ce n'est pas la destruction de Jérusalem, c'est notre histoire à nous. Je vais aller vite pour terminer. Pourquoi reviendra-t-il ? Le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il vient pour mettre notre vie en lumière et nous donner ce qui correspond à notre louange ou notre déshonneur. Jésus a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Le retour sera un temps de jugement, de dévoilement. Le Seigneur mettra en lumière à son avènement, dit l'apôtre Paul, ce qui est caché dans les ténèbres. Il manifestera les pensées des cœurs. Tout sera dévoilé, lui et nous. Il viendra pour manifester son règne. Il règne déjà, il règne. Il guérit les malades, il sauve les opprimés, il sauve le monde, il sauve ceux qui se confient en lui. Il règne, mais il viendra pour manifester ce règne avec nous, avec les croyants, sur une terre où il y aura encore du péché, encore la mort. Il faut lire Ésaïe. Mais lui, le Seigneur, sera là avec nous. Et il viendra pour transformer nos corps, nos esprits, nos âmes. Parce que tel que je suis aujourd'hui, je ne parle pas physiquement, mais même dans mon âme, je me dis, je ne suis pas prêt à aller régner là-haut avec le Seigneur. Il faut que des choses changent en moi, non? Vous voulez entrer dans le ciel avec votre mauvais caractère? Pardonnez-moi. Avec vos sentiments parfois de rancune, de retrait, de repli sur vous-même. Seigneur, ressuscite tout notre être intérieur. Amen. Ressuscite notre esprit, ressuscite nos corps. Il viendra pour la transformation. Les chrétiens décédés qui sont déjà avec le Seigneur et qui sont dans une vie riche se ressusciteront et nous après eux. Et puis il viendra pour être auprès de son Église parce que la tribulation sera là aussi. La tribulation, mes frères et sœurs, va montrer au Seigneur notre loyauté. La valeur de notre oui au baptême. La tribulation va montrer nos valeurs chrétiennes d'engagement, de sainteté. Mais dans la tribulation que l'Église commence à voir autour d'elle, il y aura une protection de Dieu. Il y aura la grâce de Dieu donnée à ceux qui souffrent pour Jésus-Christ. Amen. Elle aura des limites. Vous aurez une tribulation de 10 jours, 3 ans et demi, 7 ans. Bon, il y a des dates. Il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Nous allons voir des temps désespérants où rien ne tiendra. Aucune parole des hommes. Seul l'argent dominera et tiendra le monde, qui deviendra une marchandise, des cargaisons d'or, des cargaisons de chevaux, Apocalypse 18, des cargaisons de chars, cargaisons d'âme, de corps. Mais mes frères et sœurs, nous attendons qui, nous attendons quoi en ce jour ? Jésus-Christ. Amen. Nous n'attendons pas des choses, des événements. Nous attendons Jésus-Christ. Je viens bientôt. Que personne ne prenne votre couronne. Je te garderai à l'heure de la tentation. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous parles ce matin, Seigneur, pour que ton Église soit debout, éclairée, avec son flambeau à la main, que l'Église brille par sa foi et ses œuvres, que l'Église tienne bon devant le fleuve que Satan vomit contre elle, que ton Église tienne bon et elle tiendra bon parce que tu es fidèle à ton Église. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons fermes, inébranlables, gardés pour le salut qui est prêt à être révélé, manifesté. Te prions dans cette matinée pour que, oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Viens bientôt. Devant ce que nous voyons aujourd'hui, soupirons après ta présence dans le monde. Merci de nous avoir sauvés. Amen. Et pour notre nom gravé dans le, écrit dans le livre de vie. Tiens-moi debout, Seigneur. Tiens-nous debout, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. On demande au Seigneur, frères et sœurs, que Dieu nous garde du sommeil, de l'endormissement par les choses de la terre passagère. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde du péché qui est comme un filet qui prend et qui serre et qui endort et qui déforme la raison, la pensée, la foi, le regard sur l'Évangile. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde nos enfants. Tout est mélangé aujourd'hui. Que Dieu garde nos enfants. Amen.